like Chuck said, like he's flustered, and you can't be flustered at this. I know you're down 0-2, but listen, as that guy on that team, you just gotta step up.
Il y a deux points. Non, c'est loupé. C'est loupé.
He wasn't focused, and he needed to be more focused. You don't say that either.
Alley-oop to Wembanyama. Perfect pass from Castle. And a lead is up to three.
Good ball movement. Towns fakes the three. Finds Brunson. Extra pass. Shamet off the bounce inside. Layup blocked by Wemby.
When I'm talking about big man, don't want you to be like me. I want you to have a certain mentality. The same mentality that I saw him have. The same mentality that I saw Patrick Ewing have.
Alors, les finales de Wemby jusqu'ici, sont-elles satisfaisantes? Est-ce qu'il doit faire encore plus? Alors, je dis encore plus parce que d'un point de vue statistique, c'est quand même très bon.
Ah, c'est monstrueux.
Alors, sauf peut-être au rebond, non? Il est en dessous de ses standards.
Quasiment à 10 rebonds de moyenne.
Et vous l'attendez pas plus au rebond?
C'est difficile de dire ça parce qu'en fait, une nouvelle fois, il est bumpé à chaque fois. Il est le point d'ancrage, mais surtout de fixation pour les Knicks. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils voient un rebond partir, ils vont tous faire le box-out sur Victor. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile de prendre des rebonds. Et puis, il est souvent attiré par l'extérieur aussi pour essayer de défendre sur tout le monde. Donc forcément, t'es un petit peu en retard. Mais par rapport à ta question initiale, de savoir si on attend plus, moi je trouve qu'il apprend à chaque fois. Donc, au contraire, le match qui vient de sortir là, c'est la preuve qu'il a appris sur les premiers matchs. C'est un match solide, c'est un match incroyablement dur. Et tu te dis, c'est quand même au Garden, quoi. C'est quand même, normalement, c'est la mec du basket, tu peux avoir un petit peu de pression, tu viens te rater, entre guillemets. Vraiment, je mets vraiment des grosses guillemets, parce que les gens disent qu'il s'est raté. Oui, voilà, c'était pas terrible.
Son match 2 n'est pas bon, on peut enlever les guillemets sur le Money Time.
Non, son match 2, il n'est pas si mauvais que ça. Le Money Time, il fait une ou deux erreurs.
Mais pas si mauvais que ça, quand tu es en finale, bon.
Non, mais évidemment.
C'est un match 2 en deux temps. Sa première mi-temps est avec 4 tiers sur une première mi-temps.
Ouais, c'est ça. Il est à 11 points cette rebond sur le dernier carton.
Oui, il est monstrueux.
Il est monstrueux, alors il commet une erreur.
Le money time, les deux tirs ratés,
évidemment.
Ce
que je veux dire, c'est que oui, il y a ces deux erreurs là, peut-être même trois, mais dans l'absolu, il fait pas un match aussi horrible qu'on peut le décrire.
Oui, donc, mais l'erreur est colossale.
Là, il a progressé encore, il a appris, il a compris qu'il fallait attaquer le cercle, être plus présent près du cercle, mais surtout, une nouvelle fois, les 72 heures lui ont fait beaucoup de bien physiquement, et ça se voit. Il est frais mentalement, il est plus frais physiquement, et ça lui permet d'attaquer le cercle et justement d'être plus près. Et plus près du texte, j'ai envie de dire, il me shoot moins à 3 points, quoi, tout simplement.
Sur le match 2, sur le côté fraîcheur physique, tu le voyais très bien. En fait, à chaque fois, il avait du mal à finir les mi-temps, que ce soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps. Et tu sentais qu'il y avait un manque de lucidité. Pareil, la première mi-temps du match 2, alors oui, il prend que 4 tirs, mais c'était aussi dramatique sur ses choix. Il perd 2-3 ballons, il envoie des ballons en tribune, sans qu'il était complètement carbo. Après, pareil, il repart assez fort deuxième mi-temps, parce qu'il s'est reposé avec au vestiaire, etc. Et bah, à la fin du match, il contribue aussi au run des Spurs. Mais voilà, sur le Money Time, tu sens qu'il a un manque complet de lucidité. Et bah, son erreur, elle est colossale sur la passe qui manque à Castle.
Oui, mais c'est pas parce qu'il fait une erreur que son match est extrêmement mauvais. Il fait deux, mais ça gâche
le match.
J'ai même envie de dire deux, parce que le shoot qu'il prend sur Mitch Robinson avant, moi, il est pas bon aussi, parce qu'il n'attaque pas. Et tout ça. Oui. Je parle même pas du dernier, je parle
dernier
du avant.
Ouais.
Le dernier,
c'est
tout correct.
Tu
dois essayer de l'attaquer, tu dois essayer de bouger. Mais ça va.
Après, des grands joueurs qui font des erreurs en finale NBA, on se rappelle tous de cette passe dans le dos que tente Steph Curry en finale NBA qui arrive en tribune. Ça existe. Hein. Les plus grands stars ont déjà fait des conneries dans des money time. Maintenant, pour revenir après trois matchs sur les finales de Victor Wembanyama, moi, je trouve ça impressionnant, en fait. Les chiffres sont monumentaux. Et la progression par rapport au match 1, où le match 1, il est en travers en termes d'adresse, et ce qu'il a produit hier, il a dit, c'est un mec qui continue à progresser, qui continue à apprendre. C'est un mec qui a sur ses épaules les yeux du monde entier sur Victor Wembanyama, l'alien. C'est lui qui doit faire que les Spurs doivent être champions NBA. Moi, je trouve qu'il assume ce statut à merveille. Et ce qui est marrant chez Victor, ce qu'on ne voit pas, il y a des mecs qui sont fatigués, mais tu n'arrives pas à le voir. Chez Victor, je trouve que tu le regardes courir, tu vois s'il est fatigué. Quand il commence un peu à être un peu penché en avant sur les traversées de terrain, je trouve que tu vois rapidement dans quel état physique il est.
Après, c'est comme il a des longs segments.
Il se penche un petit peu avec le cou comme ça pour traverser et tu te dis, oula, j'ai l'impression que Victor, il a le capot qui fume. Mais moi, sur ces finales NBA, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Enfin, ce match 3 où tu vas gagner au Garden, où tu fais 32, 8 et 6 à 11 sur 18 au tir, moi, je trouve ça fort. Alors, peut-être qu'il y en a qui en attendent plus parce que c'est l'alien. Mec, c'est ses premières finales NBA, il a 22 balais, c'est le leader d'une équipe qui est très très jeune. c'est compliqué pour moi de mettre des bémols sur, ce que, sur les trois premiers matchs.
Mais t'as fait gaffe quand même, parce que Félix a joué en Benjamin, il shootait beaucoup, donc il peut comparer quand même.
Sans capot qui fume.
Ce qui a fait mal et ce qui a valu sûrement des commentaires négatifs, c'est que dans le Money Time, il a été comment dire, surclassé, je veux dire, par Brunson, qui n'a pas été forcément très bon, mais qui a été décisif, ce que n'a pas été capable de faire Victor.
Oui, mais je pense qu'il faut, il y a deux lectures à avoir. Jalen Brunson, c'est un mec qui va shooter entre 25 et 30 fois par match, et il le fait. C'est pas l'ADN des Spurs de Victor, que Victor prenne 25 à 30 tirs par match. Tu regardes les stats de Jalen Brunson, les pourcentages par rapport à la saison régulière, tout est en baisse.
Sauf qu'il t'a fait gagner les deux premiers matchs, c'est ça qui a valu à Victor.
J'ai une question. Est-ce que tu te rappelles du quatrième carton du match 2? Jalen Brunson met 13 points.
Ouais.
Victor en met 11.
Ouais.
Donc
mais
il met
oh, non, mais ce que je veux dire, non, gagne,
mais il met le shoot de la gagne. Bah, en fait, t'as plus du tout le même prisme pour un shoot.
Bah exactement.
Bah non, je suis désolé, je trouve que c'est hyper réducteur. C'est extrêmement réducteur. Tu peux pas dire qu'il a été mauvais. Il a pas mis le dernier shoot. Effectivement, c'est la différence entre un gagnant et
celui qui a deux shoots ratés et une passe Qatar.
Non, puis cette passe, franchement, faut y revenir. Si c'était quelqu'un d'autre qu'un joueur français, on lui tomberait dessus. Imaginez
bien. Si Donovan Mitchell ou Harden fait ça, exactement.
Non, mais c'est bon, parce que
c'est une énorme erreur, oui, voilà.
Non, mais est-ce que Brunson, il est irréprochable sur les matchs? Il rate un lay-up dans le match de là. Il rate un lay-up.
Mais quand
tout seul.
Oui, mais d'accord. Mais
bah donc, c'est aussi, au moins aussi grave, en fait.
Mais quand les matchs sont serrés, c'est-à-dire que quand quand t'as pas fait la différence avant sur tes points forts et que ça joue sur la maîtrise du Money Time, et ben sur les deux premiers matchs il l'a pas fait, sur le troisième il l'a fait. Donc là bravo pour la progression, mais je pense que les critiques elles étaient normales, elles étaient justifiées. Ça reste un énorme joueur.
Dans son statut, c'est normal qu'il y ait des critiques. C'est pas ce que je suis en train de dire. À la question, est-ce qu'on défendrait plus un Victor qu'un Brunson? Non, parce qu'il rate des lay-up Brunson, et finalement comme il met le dernier panier, tout le monde l'encense.
Et puis ces deux garçons, Jalen Brunson, il est au départ de toutes les actions, c'est lui qui a le ballon en main en premier, donc c'est quand même plus facile de remonter le terrain avec le ballon en main et d'avoir des décisions à faire. Victor Wembanyama, il peut remonter le ballon, sauf qu'il est dépendant aussi de où il reçoit le ballon, de ses joueurs extérieurs qui lui donnent la balle. Jalen Brunson, c'est le premier garçon qui touche la balle et c'est souvent le dernier aussi à toucher le ballon. Donc il y a quand même plus de chances, de possibilités de créer du jeu et d'avoir des actions positives que Victor. Il est aussi dépendant de où il se trouve, comment on lui donne la balle et ce qui se passe autour de lui.
Après, en plus, il est extrêmement clutch. Bon, tu peux dire ce que tu veux, mais il est extrêmement clutch, effectivement. Parce que les shoots qu'il met, Jalen Brunson, ils sont juste incroyables.
Il a une faculté à trouver les spots dans les dernières minutes, il est là.
Mais il a une faculté à aller trouver les spots dans lesquels il est hyper fort. À chaque fois, il va trouver les shoots et les spots où il surperforme. Et tu l'avais dit un peu, Pierrot, la semaine dernière. En fait, c'est ce garçon où t'as l'impression que quand il veut scorer, tu pourras pas l'empêcher de scorer.
Et tant qu'ils ont ça, ils seront
un poison.
Tant qu'ils ont ça, ils pourront gagner la finale.
Il y a une petite musique lancinante depuis hier. Il y a beaucoup de gens qui disent que Jalen Brunson, son match d'hier, il le joue pour être MVP des finales, il le joue pas pour gagner le match 3.
Après, il vient aussi au relais de Towns qui passe au travers.
Parce qu'avant le match d'hier,
qui est bien défendu, il est en position d'être le héros du match.
Je connais la question, Karl Anthony Towns.
Voilà, avant le match d'hier, qui est MVP des finales? C'est Jalen Brunson ou c'est Karl Anthony Towns?
C'est bien match.
Ouais, non, c'est Towns.
Il se dit, bon, j'ai envie que ce soit moi quand même.
Ce qui veut dire quoi? Qu'il s'est mis en position d'être le héros du match?
Bah, il prend beaucoup de shoots.
Mais il est obligé, parce que Towns est tellement bien défendu et tellement en galère sur ce match que tu dois prendre ce relais, quoi.
Non, là, on va pas lui en vouloir, c'est un mec tellement extraordinaire.
Après, il faut parler du match de Giannobbi aussi. Giannobbi, depuis la campagne des playoffs, il est exceptionnel. C'est un mec, c'est monsieur propre. Il donne 13 tirs, il met 28 points en prenant 13 tirs seulement hier. C'est un mec qui est énorme, poste 3, qui défend. En plus, c'est deux côtés du terrain, il est monstrueux. Giannobbi, c'est quand même très, très, très fort.
Moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'il a l'énergie d'attaquer Victor tout le temps, et il va lui dunker dessus quand même.
Et Victor a du mal à défendre,
surtout c'est ça.
Victor a du mal, parce qu'en fait, il sort trop fort à chaque fois.
C'est dur, parce qu'il va très vite, il est très puissant, Giannobbi, et sur les déplacements latéraux, il y a encore du travail à faire.
Il peut mettre dedans, donc Victor, qu'est-ce qu'il peut pas faire l'impasse sur le terrain sur Giannobbi? Donc s'il est un peu sur pression, l'autre, c'est quand même un garçon qui va plus vite que Victor Wembanyama.
Et en plus, il est hyper intelligent.
Oui. Donc c'est dur, c'est compliqué.
Mais c'est vrai que t'as l'impression que c'est celui sur lequel, c'est peut-être le seul sur lequel Victor a un peu de mal à défendre.
Il a beaucoup de mal à défendre. Anthony Towns sur les deux premiers matchs, c'était dur. Ouais.
Oui, mais c'est pas systématique. C'est l'impression que Anunobi comprend très bien comment il faut l'attaquer.
Et Anunobi, contrairement à tout ce qu'on a vu sur toute la saison, il va au bout du drive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui drive Victor et après qui lâchent la balle. Lui, il se dit, bah, moi, je vais aller au bout, en fait, voir s'il est vraiment capable de m'arrêter. Sur le match 2, il va mettre un dunk sur Victor
Wembanyama.
On a rarement vu cette saison. Il va au bout de ses actions sur le drive. Il se dit, je me fais attraper, mais je vais quand même aller au bout. Et puis, tu n'es pas à l'abri que Victor fasse une faute, deux fautes, qu'il soit en danger de faute.
Donc, et lui, c'est pour ça qu'il est fatigué aussi. Parce que les mecs l'attaquent. Et c'est la première équipe que je vois attaquer vraiment Victor.
Alvarado, il rentre. Il joue, il met des pull-ups sur la tête de Victor.
Il l'attaque, ils le font défendre, ils l'obligent à bouger. En fait.
Sur les deux premiers matchs, il part de 3 points, il va l'attaquer sur du dribble, chose qu'on n'a jamais vue depuis le début de saison.
Et défensivement, je trouve qu'on en demande aussi beaucoup à Victor. Et pourquoi il est aussi fatigué des fois, c'est que moi, des fois, je suis fatigué pour lui de voir à quel point on lui demande des choses et de venir combler les trous, les close-out, etc. Oui. Mais les Spurs ont toujours défendu comme ça. Mais
hier, ils le mettent sur Josh Hart pour justement de contrôler beaucoup de choses et se dire écoute, Josh Hart, si tu mets 9 tirs à 3 points, on tapera dans la main, on te dira bravo. Mais ça permet à Victor.
Sur les deux premiers matchs, Victor il est en galère parce que le ballon du coup des Knicks circulait très bien et Victor tu le vois, il est en train de courir dans tous les sens, essayer de couvrir tous les espaces et au bout d'un moment en fait ça finit par tomber dedans et Victor il tire la langue quoi un petit peu.
Qui est le meilleur joueur pour l'instant de ces finales?
Tu veux au global
par
ou de chaque
au global.
Prendre en compte que les Knicks mènent d'un.
Bah oui, forcément.
Moi je pense que je mets quand même Brunson. Après le match 2, j'aurais mis Towns parce que vraiment sur ces deux premiers matchs, c'était vraiment lui le facteur X en plus dans son match-up avec Victor qui remportait.
C'est Brunson ou Victor.
Mais du coup, ce qui fait la diff pour moi entre Brunson et Victor, c'est que justement il y a 2-1 pour les Knicks et du coup, voilà, faut pas être trop non plus dans l'instant présent. Là, on vient de finir le match 3. Les Knicks sont quand même devant, ont toujours la
pression. Il
faut pas non plus dire que les deux victoires des Knicks à San Antonio, c'est deux victoires fingering the nose.
Non, pas du tout.
Les Spurs sont d'avance à chaque match, ils sont devant.
Oui, mais Brunson sur l'intégrité des trois matchs, il est clutch dans les trois matchs, il est présent dans les trois matchs.
Alors je te rejoins sur les clutch, il n'est pas présent sur les trois matchs. Hein, pendant une grande partie des deux premiers matchs, il est complètement à l'ouest, Brunson.
Il est présent dans sa clutchitude, si tu préfères. Voilà.
Non, mais après, ce qui joue aussi en sa faveur, c'est qu'ils ont gagné des matchs comme ils se font depuis le début des séries de play-offs. Et donc, je trouve que c'est eux qui dictaient un peu quand même le rythme des matchs, mais l'histoire de ces finales. C'est-à-dire qu'ils ont gagné à la Knicks avec des runs de fou, avec des moments où il est inarrêtable et avec des money time où ils sont plus clutch.
Mais de manière globale,
donc,
t'as l'impression
que le match d'hier met un peu un stop à cette histoire-là.
Surtout, ça met un stop aux 13 séries consécutives.
On va voir le match 4 va être important. Hein. Je pense que si New York le prend, je pense que ce sera très très compliqué malgré tout. Hein. Ouais, c'est ça le problème.
Bah, on peut avoir une belle nuit justement.
je pense que là-bas, personne n'en aura rien à cirer de France-Sénégal.
La Coupe du Monde. Ah ouais. C'est le jour du match aussi, je crois, le France-Sénégal.
Oui, mais c'est pas très grave, hein, mais bon, on suivra ça quand même.
Tu vas regarder quoi, toi, Pierre? Les deux. Ah, c'est à quelle heure, France-Sénégal?
C'est 23h, non?
C'est 23h, ouais.
C'est
pas 21h?
Tu peux te faire un bon enchaînement.
C'est 21h, je crois.
21h.
21h, ah non. Ouais. 21h, c'est fini à 23h. Après, tu craques physiquement.
Ouais, là, t'es mort. Tu peux pas tenir.
Le problème, c'est qu'après les finales NBA, il va y avoir les matchs de Coupe du Monde la nuit. Ça, je sais pas comment on va faire.
On pourra faire des choix. Des affiches.
Après, c'est les affiches. Je vais pas me lever à 3h du mat pour Curaçao ou Haïti.
Non, mais pour Brésil-Maroc, oui.
Brésil-Maroc, c'est intéressant.
C'est ça le problème.
Est-ce que après France-Sénégal, vu que c'est à New York, les footeux vont aller voir le match 6 au Garden?
Alors, ils ont demandé à Didier Deschamps. Ouais, ça va être une histoire.
Koundé, il en a parlé justement, il a un peu rigolé là-dessus.
Qu'est-ce que tu fais, toi, Fred?
Non, mais ils ont fait une demande.
Non, mais qu'est-ce que tu fais si t'es Didier Deschamps? Tu les laisses partir au Garden?
Pour moi, oui.
C'est chaud. Pour moi, c'est chaud aussi. L'enchaînement, c'est chaud quand même.
Pour moi, oui, parce que ça ne changera pas grand-chose. En fait,
c'est fatigant d'aller voir un match.
Après, attention,
comme ça,
est-ce qu'ils vont avoir 30 places pour aller voir un match final? C'est pas sûr. Et qui va raquer? Là, par contre, pour moi.
Philippe Diallo.
Pour moi, Deschamps doit leur dire oui, parce que ça sera.
Et démerdez-vous.
Démerdez-vous, exactement. Et surtout, vous payez. Parce que ça va coûter une tonne.
Sauf s'ils sont invités par Nike ou par leur équipementier.
Mais en tout cas, la Fédé ne doit pas payer. Il ne faut pas exagérer.
Après, et si tu prends 2-0 contre le Sénégal, tu changes tu leur dis allez-y quand même ou pas?
Ça, c'est une vraie question.
Mais il faut se laver la tête, au contraire.
Mais il faut faire en sorte de. Vous ne montrez pas trop.
Par contre, il faut que le bus de la.
Vous ne montrez pas trop. Tu crois que la caméra va faire quoi?
Par contre, il faut que le bus les dépose au Garden, reste devant, et dès que le match est fini, tout le monde dans le bus, et on rentre à l'hôtel.
Donc, c'est la Fédé qui paye.
Il ne faut pas que les 2-3 qui s'éparpillent à droite à gauche à New York.
Bon, allez, on a fait le tour.
Oui.
Allez, partie historique.